Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le temps de la Passion nous prépare à l'heure de Jésus, c'est-à-dire aux trois jours saints où il accomplit l'œuvre de la rédemption décrétée dans le sein de la Sainte Trinité. Cette heure, c'est l'heure désirée par d'ardents soupirs par les âmes des justes depuis plus de 4000 ans. Et surtout, c'est l'heure ardemment désirée par Jésus lui-même pour nous sauver. La Passion, et en particulier la croix, est un mystère très profond ici-bas, chante Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Sans beaucoup de lumière, on ne le connaît pas. Il faut, pour le comprendre, un esprit relevé. Il faut pourtant l'entendre afin d'être sauvé. Notre monde a mis son espérance dans la science matérialiste, faisant miroiter à l'homme un avenir radieux où il deviendra un Dieu immortel, maître de son destin. Ce monde a besoin plus que jamais de la véritable science dont se sont nourris les saints, qui les a conduits à la vraie vie, la vie éternelle. Cette véritable science, c'est la science de la croix. Par sa Passion, Jésus nous enseigne beaucoup de choses. Retenons-en deux. Il nous enseigne d'abord le mystère de l'incarnation de la rédemption, et puis nous verrons aussi le mal qu'est le péché. Il nous enseigne le mystère de l'incarnation-rédemption. La Passion est la période de la vie de Jésus qui renferme les plus étonnants contrastes qui déroutent souvent la raison humaine, si bien que certains sont tentés de nier l'humanité de Jésus, d'autres sont tentés de nier sa divinité. Au jardin des Oliviers, Jésus est envahi de crainte, de tristesse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il demande que le calice de la Passion s'éloigne de lui. Il va chercher le réconfort auprès des apôtres. Qui pourrait douter de son humanité ? Pourtant, il s'avance, plein de courage, au-devant de ceux qui viennent l'arrêter. D'une seule parole, il renverse la cohorte armée. À Saint-Pierre, qui tire l'épée pour le défendre, il lui dit qu'il pourrait avoir l'aide de 12 légions d'anges s'il le voulait. Mais il se livre sans résistance aux soldats. Au procès devant le Sanhédrin, il ne dit mot face aux accusations. Sommé de dire s'il est le Fils de Dieu, il l'affirme avec éclat, avec toute l'autorité du Fils de Dieu. Mais pourtant, il se laisse juger et condamner. Et cependant, il annonce qu'ils le verront siégeant à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Ce contraste va aller en s'amplifiant jusqu'à la mort sur la croix. Sur la croix, entre les deux larrons, Jésus agit en Dieu en promettant aux larrons pénitents une place au paradis. Vers la neuvième heure, c'est-à-dire vers 3 heures de l'après-midi, il prit le psaume 21 en criant d'une voix forte le premier verset de ce psaume. « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est l'humanité de Jésus chargé de nos péchés qui parle. Ce n'est pas parce qu'il a été abandonné de la divinité qu'il parle ainsi, mais pour racheter le pécheur. Il a voulu ressentir la séparation de Dieu éprouvée par le pécheur. Il y a en lui, dit saint Léon, entre Dieu et l'homme, une telle unité qu'ils ne peuvent être séparés ni par les supplices, ni par la mort. D'ailleurs, après ces paroles, Jésus, par sa divinité, continue à diriger l'accomplissement de toutes les prophéties. C'est pourquoi il dit « J'ai soif ». afin d'accomplir ce que l'Écriture dit dans le psaume 68. Ils m'ont donné du fiel pour ma nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Puis il dit, tout est consommé. Et poussant un grand cri, Père, je remets mon âme entre vos mains. Et, ayant dit cela, il rendit l'esprit. Donc c'est bien lui qui dirige. Il remet son âme, il rend l'esprit. Jusqu'à la fin, il dirige, il est le maître des événements. Voyez cette puissance de Jésus mourant, dit saint Augustin. Il attendait que tout ce qui avait été prédit de lui fût accompli. Puis il s'en alla par l'effet de sa puissance, de même qu'il était venu librement. Et ceux qui furent les témoins de cette mort, les soldats, furent frappés de cette puissance qu'il manifesta à sa mort, plus que de la puissance qu'il avait manifestée par ses miracles. Et c'est pourquoi le centurion s'est écrié, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». La mort de Jésus est comme un sceau qui atteste la vérité de son incarnation et lui a permis d'accomplir la rédemption. Par sa nature humaine, commune avec nous, il a pu se charger de nos péchés. Il a été fait péché pour nous, il s'est fait malédiction, dit saint Paul, pour subir à la place du pécheur toute la rigueur de la justice divine. Par sa nature divine, la réparation qu'il a faite par amour pour son Père a une valeur infinie et elle nous obtient un trésor de bénédiction. Mais voyons un aspect de la passion qui nous concerne plus particulièrement, le mal qu'est le péché. Pour en comprendre la malice, il faut regarder les acteurs de ce drame. Le traître, Judas, ceux qui défaillent, Saint-Pierre, les apôtres, les disciples, les soldats, ils obéissent aux ordres, ils jouent au dé, tirent au sort la tunique de Jésus, pendant que celui-ci est en proie aux souffrances horribles de la crucifixion. Quelle indifférence, quelle dureté de cœur! Les autorités, prêtres, pharisiens, ils sont animés par la haine. Le roi Hérode, à lui, il prête quelque attention à Jésus pour divertir sa cour et jouir d'un spectacle de prestidigitation. Mais devant le silence de Jésus, il le considère comme un fou et le renvoie avec mépris. Pilate, il est troublé dans ses conceptions païennes. Mais il est lâche devant les menaces d'une disgrâce et il ne pense qu'à sa carrière. La foule, pour la plupart, ils ont assisté aux enseignements de Jésus, à ses miracles, notamment la multiplication des pains. Ils étaient enthousiastes, ils étaient prêts à faire Jésus roi. Mais voilà, ils sont versatiles et ingrats. Ils passent de l'adulation à la haine, pour un peu d'argent, ou se laissent entraîner par les meneurs. Mes frères, quand nous péchons, nous traitons Jésus comme l'un de ces acteurs de ce drame historique. Chargé de nos péchés, Jésus a subi tous les tourments que nous connaissons pour détourner de nous la justice divine. En considérant l'ensemble de ces souffrances, nous pouvons dire « Voilà la gravité de mon péché ». Et cette gravité se manifeste particulièrement à Gethsémani, par la grande tristesse, la crainte, l'angoisse qui provoquèrent la sueur de sang et l'agonie de Jésus. Jésus, en tant que chef de l'humanité, accepte, pour nous sauver, d'assumer toutes les souillures de l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin du monde. C'est un véritable amas épouvantable qui s'appesantit sur lui. Mais ce n'est pas seulement de l'extérieur que ce torrent d'iniquité l'abat. Ce torrent devient un calice à l'odeur horrible, que Jésus va devoir boire jusqu'à la lie. C'est-à-dire qu'il va pénétrer son âme très sainte. Qu'y a-t-il de commun entre son âme très sainte et les horreurs des péchés? Il fallait offrir à la justice divine une douleur en rapport avec les fautes commises. Jésus, puisqu'il s'est chargé de nos péchés, les regrette comme s'il les avait commis lui-même. Son cœur, donc, va souffrir. Et si le cœur des plus grands saints, comme David, Sainte Marie-Madeleine, a défailli au souvenir de leurs fautes, que dire du cœur de Jésus? Cette douleur du cœur de Jésus, dit saint Thomas, surpassa la douleur de tous les pénitents de toute l'histoire de l'humanité, car elle procédait d'une plus grande lumière et d'un plus grand amour, et il eut de la douleur pour les péchés de tous. En plus de cette horreur de nos péchés qui ont rempli le calice à ras-bord et que Jésus a bu jusqu'à la lie pour satisfaire à la justice divine, il va affronter en face les souffrances et la mort qui vont suivre et qui sont la conséquence du péché, alors que lui n'a rien à voir avec le péché. Il n'est pas soumis à ses conséquences. La crainte que Jésus éprouve dans son humanité devant la souffrance et la mort, qui ne viennent pas de Dieu, il va la vaincre. Et il va nous obtenir la grâce de surmonter nos craintes, nos souffrances, notre mort. Cette grâce, pour affronter les souffrances de la mort, s'illustrera chez tous les saints, particulièrement chez les martyrs, avec des conséquences parfois étonnantes. Le martyrologe cite l'exemple d'une jeune vierge martyre condamnée à avoir la tête tranchée à la hache par le bourreau. Le bourreau, c'est son métier, il est payé pour cela, mais contrairement aux soldats romains qui gardaient le calvaire, celui-ci est ému. Les forces lui manquent. Il lève la grosse hache, mais l'innocence de cette jeune fille, son calme, sa résignation, le paralyse. La jeune fille, qui a la tête posée sur le billot de bois, se rend compte du trouble du bourreau. Elle se lève, fait monter vers le ciel une courte prière, puis encourage le bourreau à faire son devoir. Elle le supplie, « Monsieur le bourreau, faites votre devoir. Allez, prenez du courage, de la force, reprenez votre hache. » Sa prière est exaucée. Elle se remet à genoux, la tête sur le billot. Le bourreau, fortifié, lève la lourde hache et l'abattant d'un coup puissant, il tranche d'un seul coup la tête de la jeune fille qui roule à terre. Elle est au ciel, bienheureuse pour l'éternité. Et le bourreau, lui, professe la foi en Jésus-Christ. Et pour cela, eh bien, il va mourir aussi martyr. Le bourreau, cette jeune fille, n'était pas plus courageux que nous. Mais ils ont cru à la grâce de Jésus qui vient en nous pour être vainqueur de nos craintes, crainte de la souffrance, crainte de la mort. En ce début du temps de la Passion, il est grand temps de nous positionner. Choisissons les bons rôles dans la Passion, ceux de Saint Jean, des saintes femmes, au pied de la croix. Comme Saint Bernard, faisons de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ notre livre de méditation. Notre plus haute philosophie sera, comme pour lui, de connaître Jésus et Jésus crucifié. De même que tous les événements de la vie et de la passion de Jésus ont été préordonnés par Dieu pour l'accomplissement de sa mission de Rédempteur. De même, si nous cherchons uniquement la volonté de Dieu, nous sommes sûrs que notre Seigneur a préordonné tous les événements de notre vie, même les plus petits, à l'accomplissement de notre salut. Il nous donnera le courage d'aller jusqu'au bout, comme cette jeune fille et ce bourreau. Ne craignons pas. La crainte pusillanime ne fait qu'augmenter la souffrance, en pure perte. Alors, afin de mieux connaître, aimer et suivre Jésus crucifié, récitons chaque jour les litanies de la Passion, que vous trouverez à la sortie de l'église sous le portique, et demandons cette grâce de suivre Jésus à Notre-Dame de la Compassion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.